Je vais tout de suite passer la parole à Philippe Rigiel, qui est maître de conférence dans cette université à Paris 1 et qui est un spécialiste de l'histoire des migrations et qui a accepté avec courage et plaisir, et je l'en remercie, de bien vouloir essayer de faire le même exercice auquel se sont livrés nos autres collègues, à savoir de présenter un petit peu les grands thèmes problématiques et les historiographies des migrations britanniques dans la période qui correspond à celle de votre question.
Je pourrais vous dire d'abord que du monde britannique, de l'Angleterre, je sais au fond peu de choses, sinon, et je ne suis pas le premier, que c'est une île, que cette île a des dirigeants qui sont à la tête d'un vaste empire qui est nourri et que nourrit une industrie qui confère à la puissance britannique la prééminence à la fois financière et économique. Il se trouve, et cela tombe bien, que ces traits suffisent à rendre compte de l'importance des migrations dans l'histoire britannique au cours du siècle un peu long qui nous occupe. L'établissement, en effet, de la souveraineté britannique, la mise en valeur des capitaux de la mère patrie, on dit très longtemps en Australie « Mother England », s'accompagne partout de massacres, de déplacements de population, de confiscations aussi de vastes étendues de terres, dont la mise en valeur suppose l'arrivée de colons, d'administrateurs, de soldats, de main-d'œuvre importée aussi, car souvent ce ne sont pas les indigènes ou pas seulement qui mettent en valeur ces terres ou ces ressources. Dans le nord de l'Australie, au Queensland, ce sont des Iliens du Pacifique regroupés sous le terme générique de Kanak, puis des Italiens qui assurent le succès des plantations de canne à sucre. Et cette exploitation de territoires nouveaux s'accompagne de la construction de routes, de la mise en place de liaisons maritimes régulières, de plus en plus rapides, de plus en plus sûres, de moins en moins onéreuses, qui nourrissent des flux en retour. Apparaissent des figures exotiques dans le Londres du XIXe siècle, qui viennent se mettre au service des maîtres du monde, ou bien, comme le jeune Gandhi, apprendre d'eux les moyens d'une future indépendance. Puis il y en a de plus humbles, des marins nombreux qui font escale dans les ports britanniques et qui parfois s'attardent un peu, attirant l'attention, surtout quand ils sont noirs, des autorités britanniques. Ils se mêlent à Londres, à Manchester, à Liverpool, de plus en plus à ceux souvent venus d'Irlande qui ont offert leurs bras pour construire les chemins de fer, les usines, les mines qui assurent la prééminence de l'industrie britannique. Et ils ont en partage avec eux longtemps le mépris, la brutalité réservée à ceux qui ne sont pas tout à fait anglais, ou pas du tout. Nous pourrions dire ou nous pourrions relire l'histoire britannique de ce long siècle à partir des transformations de l'intensité des directions ou de la régulation des flux migratoires qui animent ce vaste empire. Et nous comprenons mieux pourquoi la littérature regorge, la littérature de langue anglaise bien sûr, regorge durant cette période de personnages itinérants, des anglo-indiens de Thackeray aux médecins écossais qui dépérit en Australie qu'évoque Henry Handel Richardson, alors qui est elle-même un bel exemple de ses circulations britanniques. Elle est née d'un père écossais près de Melbourne, dans l'état de Victoria. Elle est allée faire ses études à Leipzig, où elle a épousé un Anglais avec qui elle est allée vivre à Londres, et elle devient l'un des symboles de la littérature australienne, alors qu'elle n'a jamais, entre 1893 et 1940, je crois, date à laquelle elle meurt à Londres, remis les pieds en Australie. Thème littéraire, thème artistique aussi, on ne compte pas les images, les gravures, les peintures qui évoquent le migrant, le départ. Alors celle que je vous montre ici est sans doute la plus célèbre de ces représentations. Elle est conservée au musée de Birmingham. Nous la devons à Maddox Brown et elle évoque le départ vers 1855 d'un jeune couple accompagné de ses enfants qu'on aperçoit pour l'Australie. Le peintre si j'en crois les historiens de l'art, s'étant représenté lui-même avec sa compagne. Ces migrations nourrissent aussi la réflexion des économistes, de Bentham à Keynes, dont nous avons déjà parlé, et je cite le même texte, ce qui n'est pas un hasard étant donné le poids de Keynes dans la pensée britannique, qui nous explique qu'on ne peut pas concevoir ni l'empire, ni la prospérité économique de l'Angleterre sans prendre en compte ces flux massifs de population qui, tout au long du XIXe, permettent la mise en valeur d'un empire qui nourrit l'industrie britannique. L'expérience de l'exil, donc, et nous l'oublions parfois, est une expérience que connaissent beaucoup de Britanniques. Je dirais parfois l'expérience de la circulation, parce que ce n'est pas parce que l'on part que l'on ne revient pas. 40% ou à peu près des Anglais qui quittent les îles britanniques durant le XIXe siècle reviendront en Angleterre. Et vous avez, alors là vous les avez chez Agatha Christie, qui passe une retraite paisible dans la campagne anglaise en se racontant entre eux les souvenirs de leurs expéditions militaires. Massif, 10 millions de départs ou à peu près pour l'Angleterre entre 1815 et 1931, 7 millions pour l'Irlande et puis le reste, les Écossais et les Gallois. Cela représente à peu près le tiers, un peu plus du tiers, des départs européens au cours de la même période. Et si nous comparons à quelques autres grands pays, l'Allemagne ou la France, nous voyons que les proportions et les volumes ne sont pas du tout comparables. Il y a, en ce domaine-là, une spécificité britannique qui rend d'autant plus surprenante, finalement, le fait que l'historiographie britannique semble s'être assez peu intéressée, jusqu'à une date récente, à cette thématique. C'est, nous dit Eric Richards, probablement le meilleur spécialiste de l'émigration depuis les îles britanniques, une affaire de généalogiste. Alors, family history, faisons attention, ça n'est pas tout à fait un généalogiste, c'est une sous-branche un peu bâtarde, située quelque part entre la démographie historique et l'histoire sociale, qui s'occupe des gens qui passent, qui partent et qui reconstituent leur famille. Alors, il faut se méfier, bien sûr, toujours, des historiens qui ouvrent un livre en vous disant que leurs prédécesseurs n'ont rien vu. C'est souvent une exagération, c'est de bonne guerre, mais ça n'est pas tout à fait vrai. Il y a d'autres auteurs et la possibilité qu'a eu Eric Richards de produire et de publier une synthèse de cette ampleur témoigne du fait que les choses sont en train de changer. Reste le constat que si nous avons des études, parfois anciennes, relativement nombreuses, elles ne sont pas centrales dans l'historiographie britannique au sens où les synthèses, les manuels en font souvent assez peu état ou n'incorporent pas ce thème dans l'histoire impériale ou dans l'histoire britannique du XIXe siècle. Il me faut donc scinder ce propos en deux segments. L'histoire des départs, l'histoire de l'émigration, et puis l'histoire de l'immigration, parce qu'ils sont assez rarement liés dans l'historiographie britannique, au contraire de ce que nous avons pour l'Europe, dans les travaux par exemple de Klaus Bade ou de Jochen Holtmer pour l'Allemagne, ou bien dans les travaux de Leslie Pagemock, dans un cadre plus vaste qui est celui de l'Europe. Je vais, pour chacune de ces deux historiographies, m'attacher à déterminer les points d'accord, les débats classiques, et puis essayer de dire quelque chose de ce qui me semble émerger, même si cela sera bien sûr plus fragile, en m'attardant plus ou moins selon l'importance des enjeux que je perçois. Pour l'émigration, alors là nous avons beaucoup de choses, pas forcément produites d'ailleurs dans les îles britanniques. Et cela s'organise de façon assez simple en fonction de la destination et du lieu de provenance. Donc nous avons des choses comme... Ça va venir. Nous avons des choses comme les Britanniques aux antipodes, c'est-à-dire quelque chose où le cadre de l'étude est défini par un point d'arrivée. Et puis nous avons des choses comme les Irlandais dans le monde, où l'unité est définie par les caractéristiques de la population et sa provenance. Et puis, bon, ça c'est un texte un peu ancien, mais qui est un très bon texte d'ailleurs de Jill Kitson sur les Britanniques aux antipodes, c'est-à-dire en Australie et en Nouvelle-Zélande essentiellement. Et puis nous avons des approches qui croisent les deux, c'est-à-dire que nous avons des livres sur les Écossais en Australie, sur les Irlandais aux États-Unis, et nous en avons beaucoup, sur les Gallois on en a un sur les Gallois au New South Wales, parce qu'on peut faire varier les échelles, bien sûr. Et puis quelques synthèses, dont alors les deux principales sont celles d'Eric Richards, que j'ai déjà cité, et puis celle de James Bellich, qui vient de sortir. J'avoue que j'ai regardé la table des matières, mais que je n'ai pas eu le temps de le lire, donc je ne sais pas s'il opère une révolution historiographique, ce sera à vous de le voir éventuellement. Pour ces très très nombreux ouvrages qui évoquent une population quelque part, une population britannique quelque part, dans l'Empire ou ailleurs, je signale un recueil collectif dirigé par O'Sullivan sur The Irish in New Communities, qui est un texte très pratique dans la perspective de la préparation d'un concours, parce qu'il comporte plusieurs points historiographiques. Vous avez un point historiographique sur les Irlandais en Angleterre, les Irlandais aux États-Unis, les Irlandais à peu près partout où il y a eu des Irlandais. Que savons-nous, que pouvons-nous savoir à partir de ces textes? Alors là, je vais d'abord vous fournir quelques données de cadrage. Cette émigration britannique, c'est une émigration qui, hormis l'épisode très particulier de la grande émigration irlandaise des années 1840, est un ruissellement plutôt qu'une suite de flux brutaux. C'est-à-dire qu'il y a toujours, finalement, à partir des années 1840, beaucoup de gens qui partent sans que ça ne représente, en termes de taux d'immigration, des volumes extrêmement importants. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez des fuites. Les îles britanniques perdent en permanence, entre 1840 et 1920 à peu près, quelques centaines de milliers d'habitants par an, mais vous n'avez pas d'exode massif qui correspondrait à une période précise qui soit celle d'une grande migration. Alors bien sûr, il y a des flux. C'est-à-dire il y a des périodes où on part plus, des périodes où on part moins. Et généralement, on part plus dans les périodes qui sont des périodes de difficultés économiques qui affectent en particulier soit les classes rurales, soit les classes populaires urbaines, ce qui se traduit généralement un peu mécaniquement par une augmentation des départs. Puis il y a des périodes, bien sûr, où on part moins. Ce ruissellement, alors c'est sans doute un des facteurs de l'absence dans l'historiographie britannique d'une réflexion très ancienne sur l'importance de l'émigration et sa fonction dans le fonctionnement de l'Empire. Ça n'est pas un phénomène, un ruissellement, ce n'est pas un phénomène très spectaculaire, d'une certaine façon. Ce que nous savons aussi, c'est que, alors contrairement à ce qu'on peut spontanément penser, les plus nombreux parmi les partants sont, pratiquement tout au long de la période, les Anglais, ou du moins des gens qui partent d'Angleterre. Là, je vous donne une estimation pour la fin du XIXe siècle, qui est une période qui voit des départs extrêmement importants. Et même durant cette période, nous avons un peu plus d'Anglais que d'Irlandais et des flux en provenance d'Écosse ou du Pays de Galles qui sont à l'époque relativement marginaux. Quant aux destinations, là nous avons un fait qui est extrêmement important. L'émigration britannique, elle ne nourrit pas seulement l'Empire et elle ne nourrit pas d'abord l'Empire durant le XIXe siècle. C'est une émigration qui, en majorité, se dirige vers les États-Unis. Les deux tiers des départs en 1852, alors ANZAC, c'est une abréviation, c'est Australie et Nouvelle-Zélande. En 1911, la prééminence des États-Unis n'est plus du même ordre, bien sûr, mais elle demeure la destination qui est la plus choisie par les migrants. 260 000 départs en 1900, sur 262 000 départs en 1911, nous en avons 122 000 qui sont des départs à destination des États-Unis. Et cela ne change que durant l'entre-deux-guerres, C'est-à-dire à partir des années 1920, où l'Empire devient la destination de la majorité des migrants, mais dans un contexte où les départs sont beaucoup moins nombreux. Et c'est lié, bien sûr, en partie, aux mesures restrictives adoptées par les États-Unis, mais aussi, et nous y reviendrons, à l'adoption par l'Angleterre d'une politique de peuplement de son empire pour la première fois de son histoire. L'histoire des politiques d'immigration, d'émigration britannique, alors je vous ai préparé quelques dates qui sont une sorte de rappel, est en effet paradoxale au sens où on parle beaucoup au XIXe d'organiser, de contrôler, de canaliser cette émigration, mais cela débouche sur quelques projets, sur quelques initiatives. Il n'en demeure pas moins que la très grande majorité des départs se font hors du cadre d'une migration contrôlée ou encouragée par l'État. C'est le cas, alors là je reprends les estimations de Richards, il considère que entre 1840 et 1869, 7% seulement des départs sont financés directement ou indirectement par l'autorité publique, soit par l'État, soit par les paroisses qui jouent un rôle clé dans cette histoire. Alors, des tentatives, il y en a eu. La plus célèbre est associée au nom de Wakefield, qui, dans les années 1840, va prendre la tête d'une institution qui est chargée de stimuler l'émigration vers l'Empire et qui imagine un mécanisme où il s'agit de faire financer cette émigration par le biais de la vente de terres de la couronne, en particulier en Australie. Vous avez un texte de 1842 qui le permet, qui fixe un prix minimum d'achat pour les terres australiennes, qui est censé alimenter un budget qui va permettre de sponsoriser, en anglais dit sponsor, d'aider la migration vers l'Australie. Et nous avons là sans doute une des raisons aussi qui ont fait que cette histoire est restée relativement marginale et déséquilibrée. Il n'y a pas véritablement de politique d'État de l'émigration, du moins pas une politique d'ampleur durant la majeure partie du XIXe siècle, ce qui fait que ça ne s'identifie pas à un secteur d'intervention de l'État. D'où les historiens ayant tendance à bien aimer suivre les secteurs d'intervention de l'État, peut-être l'absence d'une historiographie ou d'une réflexion, du moins sa modestie. Le paradoxe, c'est que c'est dans l'entre-deux-guerres que se met en place, cette fois-ci, une politique volontariste des migrations, qui se traduit par deux actes. Un acte de 1919, une loi de 1919, qui favorise l'émigration des anciens soldats, des soldats de la Première Guerre mondiale, à qui on va offrir une aide financière pour leur passage. Et puis en 1922, par l'Empire Settlement Act, qui finance, alors là, cette fois-ci, une immigration qui se veut massive, il s'agit de consolider l'Empire, mais les historiens considèrent que c'est too little, too late, c'est trop tard et c'est trop peu, parce que il n'y a plus à cette date cette espèce d'immense réservoir démographique qui a permis à l'Angleterre d'irriguer le monde durant près d'un siècle. De plus, les colonies n'ont pas très envie des migrants que l'Angleterre veut leur envoyer. Les colonies, ce ne sont plus, les Dominions en particulier, ce ne sont plus en 1920 des territoires vierges qu'il s'agit absolument de peupler. Ce sont des économies urbaines qui ne veulent pas forcément qu'on leur envoie des ouvriers agricoles ou des manœuvres. D'où des négociations parfois difficiles, en particulier avec l'Australie. Et puis, alors, autre point d'accord, autre thème fréquent, la diversité des migrations, qui l'a aussi rend très difficile la tenue d'un discours commun. Diversité des migrations, les migrations britanniques durant la période, ce sont les dernières migrations de convicts, c'est-à-dire de prisonniers de droit commun, que l'on envoie mettre en valeur une terre vierge. En Australie, cette pratique s'arrête en 1868. Jusqu'en 1868, vous avez des convois de prisonniers, alors, dont l'efficacité économique est parfois discutable. Et puis, à côté de ça, vous avez des flux très particuliers, des flux féminins, en particulier au départ de l'Irlande. Alors là, l'image est peut-être un peu grande. On va arranger ça. Voilà. Ça, ça se trouve dans un très très beau bouquin qui s'appelle Erin's Daughter in America, de Dinner, qui évoque le sort de ces centaines de milliers de jeunes Irlandaises qui vont s'employer comme domestiques de maison dans l'Amérique urbaine, où les ménages, là c'est un exemple, attendez voir que je retrouve la date, c'est début du XXe siècle, c'est un exemple d'une de ces maisonnées où, alors ça ne se voit pas sur la photo, mais enfin toutes ces jeunes filles qui servent une famille américaine de la bonne société sont de jeunes Irlandaises, et ça en fait quand même une demi-douzaine. Autre point d'accord, là j'irai vite, c'est que l'anglais est soluble dans l'émigration. Ça c'est une sorte d'antienne chez les historiens britanniques. Ils n'ont pas créé d'identité collective, ils n'ont pas créé de corps politique à l'étranger qui représente les Anglais présents en Australie, en Nouvelle-Zélande ou aux États-Unis. Au contraire de ce qu'ont généralement fait les Irlandais ou les Écossais. Et vous avez toute une discussion pour savoir pourquoi. J'en viens donc aux discussions, aux thèmes qui sont aujourd'hui dans l'actualité de la recherche. Alors, le premier point, et ça c'est très frappant pour un historien français, c'est que très très tôt, les historiens de cette émigration britannique se sont intéressés au genre et à l'importance, au nombre des femmes présentes dès le XIXe siècle dans ces flux migratoires. Alors je vous donne un exemple qui est un bouquin un peu ancien de James Hamilton sur les femmes de la bonne société que les malheurs du temps obligent à partir pour l'Australie et qui trouvent le secours d'un certain nombre d'institutions charitables, qui est un très très bon bouquin. Mais nous avons le livre de Dinner sur les Irlandaises aux États-Unis, qui est un classique. Nous avons aussi, sur les migrations forcées, un livre de Deborah Oxley sur les femmes convictes, l'expérience des femmes transportées en Australie, qui est lui aussi quelque chose de très utile. Et puis l'autre thème en débat aujourd'hui, c'est celui de la race. C'est-à-dire de la place dans la construction impériale, dans la gestion des flux migratoires, peuvent avoir ou que pouvaient avoir les discours de la race. Et là, je n'ai pas résisté, je vous donne la citation de Richard, qui vous explique qu'il y a quelque chose de très particulièrement britannique dans la façon dont les Britanniques en émigration se sont très peu mêlés aux populations locales et ont souvent conçu leur expansion comme l'expansion d'une race. Alors, ce qui est très très curieux d'ailleurs, c'est que dans le bouquin de Richards, là vous avez une prégnance de cette thématique dans l'historiographie britannique, il vous dit en gros, c'était pas bien, on a massacré, on a déplacé les races, vous avez implicitement dans toute cette entreprise l'idée qu'il y a une race élue qui va peupler le monde, et il vous dit en fait on pourrait lire ça comme une sorte d'invasion écologique par une race parasitaire. C'est-à-dire qu'il retourne la valence de l'interprétation en disant « c'est une race parasitaire qui a créé du désordre et du malheur partout », mais il est toujours dans une pensée de la race. Il est toujours dans une race qui s'installe dans un environnement et qui supplante les espèces natives. Et puis, alors l'autre débat, les Britanniques aussi considèrent qu'ils sont une exception, il n'y a pas que les Français, donc vous avez tout un débat sur l'exception britannique en la matière, dont certains traits d'ailleurs sont extrêmement frappants. Les migrants britanniques se meuvent la plupart du temps dans un univers qui parle anglais, ce qui est une particularité que ne partagent pas les Allemands, les Polonais ou les Italiens, qui sont les autres peuples migrateurs de la période, et cela a des conséquences évidemment sur leur devenir en émigration. J'en viens à ma deuxième section, sur laquelle je vais aller un petit peu plus vite, parce que là les enjeux sont d'une certaine façon moins importants dans le cadre de l'historiographie britannique que dans le cadre de l'histoire des migrations. L'immigration, alors nous avons très longtemps lu que finalement il n'y avait pas d'immigration en Angleterre au XIXe siècle et qu'en plus l'État ne s'en occupait pas. Ce qui n'est pas tout à fait vrai pour deux raisons. La première des raisons, c'est qu'il n'y a pas de migrants étrangers, mais il y a des Irlandais, et en masse, et très tôt. Et que la caractérisation sociale de cette population irlandaise est très très proche de la caractérisation sociale des migrants étrangers sur le continent. De même, d'ailleurs, que les discours qui les décrivent, qui, là encore, empruntent très souvent à la race. Alors, c'est vrai à l'époque, je vous ai donné une citation d'un texte qui est un classique d'un Dr. Kay, qui, décrivant l'épidémie de choléra à Manchester en 1832, nous explique que tout ça, c'est de la faute des Irlandais, parce que cette race qui est arrivée a infecté la population locale avec ses bacilles et ses mauvaises habitudes. Et on va retrouver, alors ça c'est un des grands débats de l'historiographie, on va retrouver cette idée que les Irlandais sont considérés comme une race, en tout cas on en trouve des traces, mais en même temps ils sont des sujets de la couronne. Ils n'ont pas de droits politiques complets pendant une bonne partie de la période, mais ils vont finir par les acquérir. Donc vous avez tout un débat, tout un discours sur comment doit-on traiter l'Irlandais. Est-ce que c'est un pauvre? Est-ce que c'est un migrant? Est-ce que c'est un sujet colonial? Et de ce fait, s'il n'y a pas forcément de discours sur ou d'historiographie de l'immigration, il y a une historiographie irlandaise qui est extrêmement abondante et on trouve des migrants irlandais dans les pages de tous les classiques de l'histoire économique et sociale anglaise, même s'ils ne sont pas toujours définis comme migrants ou comme étrangers. Autre thématique, si nous sommes du point de vue de l'immigration, le refuge. Londres, c'est l'endroit où on vient se réfugier quand on a perdu une bataille politique, particulièrement si on est un libéral. Alors, il me semble, il me semble avoir lu aussi en français un texte de M. Ben-Simon sur les rescapés du printemps des peuples à Londres, mais je n'avais pas la référence sous la main, donc ça existe aussi en français. Et il y a deux aspects à cette historiographie. Il y a d'abord l'expérience de ces migrants, de ces réfugiés, et puis il y a pourquoi l'Angleterre seule offre-t-elle de façon très libérale l'asile à peu près à tout le monde au cours du XIXe siècle. Et là, vous avez une espèce de thèse classique qui est ils donnent asile parce qu'ils sont libéraux. Et puis vous avez un texte qui est historiographiquement important, même s'il est un petit peu ancien, de Porter, qui explique que ça s'est fait à la suite de luttes politiques, qu'il y a eu des hésitations, qu'il y a eu des conflits, et qu'il n'y a pas une sorte d'essence libérale du royaume qui expliquerait pourquoi de toute éternité on y accueille les réfugiés. Autre point autour duquel vous avez toute une historiographie, c'est la question de la fermeture progressive du royaume aux étrangers. Alors là, bon, évidemment c'est une boutade, nous avons longtemps travaillé à partir d'un livre qui datait de 1969, qui faisait une histoire de la politique d'immigration anglaise qui débutait en 1066 et qui expliquait que finalement les fonctionnaires qu'on trouvait à Heathrow étaient les très très lointains descendants du constable de Douvres à qui Guillaume de Conquérant avait confié les clés du royaume en lui disant « ne laisse pas entrer quelqu'un qui est l'ennemi du souverain ». Et il traitait comme une sorte d'énigme la longue parenthèse libérale qui va de 1826 à 1905, durant laquelle nous n'avons pas de restrictions à l'entrée. C'est-à-dire nous n'avons pas de loi, nous n'avons pas de fonctionnaires non plus, qui empêchent de débarquer en Angleterre. Et là, nous avons aujourd'hui une historiographie beaucoup plus fournie, dont vous trouverez les échos dans un texte très court et très clair en français de David Feldman, qui est paru dans le Mouvement Social, qui nous explique d'abord que cette rupture est à nuancer, parce que s'il n'y a pas de contrôle des étrangers, c'est parce que le contrôle de la mobilité, c'est le contrôle des pauvres et des Irlandais. L'enjeu, c'est d'abord celui-ci. Et de fait, on va déporter, expulser des dizaines de milliers d'Irlandais jusqu'aux années 1850, quand les circonstances économiques font qu'on veut se débarrasser de cette manœuvre en surplus. Vous avez une parenté entre la politique irlandaise et les politiques migratoires européennes, à ceci près qu'ils ne sont pas des étrangers, et vous avez aussi une sorte d'invisibilité de cette politique en tant que politique migratoire, parce qu'elle est très largement à la charge des autorités locales. Ce sont les paroisses, très souvent, qui sont l'acteur déterminant de ce contrôle de la mobilité. Alors là, j'ai regroupé les deux textes de Feldman. En fait, vous avez en français un texte sur les immigrés en Grande-Bretagne et la politique de contrôle. Et vous avez un texte qui est en français aussi sur l'État britannique et l'émigration. Donc vous avez deux synthèses avec des références bibliographiques en notes qui font une quinzaine de pages sur ces aspects de l'histoire britannique. Et je terminerai là-dessus. Dans ce cadre aussi, nous retrouvons aujourd'hui un débat sur la race et sur l'identité britannique, alors qui s'explique bien sûr par des considérations tout à fait contemporaines. Les mouvements migratoires des 30 dernières années ont contraint l'Angleterre et le Royaume-Uni à redéfinir les identités culturelles et politiques. Et vous avez eu du coup une sorte de retour sur l'expérience historique britannique, la place de la race dans la construction de la nation, la place aussi de l'Irlandais, qui est l'envers de l'anglais pendant très longtemps. Vous avez tout un débat dont on trouve l'écho chez Richards, par exemple, qui explique que finalement, l'Irlande sert de répétition générale au XVIIe siècle à l'expansion britannique et qu'on y retrouve exactement les mêmes politiques avec racialisation des populations, massacres, dépossessions et infériorisation des survivants que celles qu'on va retrouver dans le reste de l'Empire et qui considèrent finalement que cette expansion britannique est conçue, pensée, structurée parfois par une pensée qui est une pensée raciale. Et vous avez à côté de ça des auteurs, alors là je suis obligé de vous citer un auteur allemand parce que c'est lui qui tient ce discours-là, qui est Sven Oliver Müller, qui considère que cette racialisation de l'identité britannique et anglaise intervient en fait beaucoup plus tard, si l'on veut donner au mot race son sens moderne, et qu'elle intervient à l'occasion de la Première Guerre mondiale. Il reprend en fait certaines des thèses de Foucault sur la nécessaire racialisation des populations comme condition de la mise à mort légitime de l'ennemi. Donc vous avez là un débat historiographique qui est assez vivant. Je crois que j'ai à peu près tenu. Donc je vous remercie de votre attention et puis on a peut-être le temps pour une ou deux questions. Bon, là on a... Alors, dans le contexte britannique, nous avons deux niveaux d'identité. Je crois d'ailleurs, oui, je l'ai cité, il est là. On a une mise au point en français sur ces débats qui se trouve dans la revue d'histoire du XXe siècle, du XIXe siècle, pardon, mon habitude professionnelle, ça, qu'on doit à Kath Robbins. La spécificité britannique, c'est que vous avez quand même l'articulation de plusieurs niveaux d'identité, puisque vous avez un empire qui subsume un certain nombre d'identités nationales. Et être british, c'est pendant très longtemps, d'abord être un sujet de Sa Majesté. C'est-à-dire que c'est une notion juridique, politique, ancrée, disent certains auteurs, dans un héritage qui est en fait un héritage quasi féodal. C'est le lien au souverain. Et pour certains auteurs, il y a à partir du début du XXe siècle une tentation ou une tentative de constituer à partir de cette qualité juridique une identité politique moderne qui serait une sorte d'ethno-identité où entreraient des référents culturels, voire des référents raciaux. Alors c'est un thème en débat, c'est-à-dire que là nous ne sommes pas dans des choses qui sont admises par tous les secteurs de l'historiographie. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais... Et c'est en lien, en fait, cette Britishness, c'est lié ou c'est mis en lien par certains auteurs avec la volonté de développer l'Empire qui se traduit dans les années 20-22 par la mise en place d'une politique systématique de peuplement des Dominions. Alors, on a... Bon, c'est... disons qu'il y a plusieurs problèmes. Le premier, c'est les sources à partir duquel sont construites ces statistiques qui sont généralement des sources d'embarquement, c'est-à-dire qu'on compte des passagers. Alors, on compte des passagers et on connaît leur port de provenance, on connaît parfois aussi leur lieu de naissance, pas toujours. Donc, elles ne sont pas toutes homogènes et effectivement, il peut y avoir un certain nombre d'Irlandais qui s'embarquent depuis Liverpool, ça c'est bien évident. Il peut y avoir aussi des gens... Alors, l'autre difficulté, c'est qui est irlandais ? Parce que, est-ce que le fils d'Irlandais qui s'installe... Le fils d'un Irlandais installé à Manchester qui s'en va pour Chicago est compté comme un Irlandais ou comme un Anglais ? Donc là, nous sommes d'accord. Il y a toute une zone de flou dans ces estimations. Bon, ceci dit... Ce sont les estimations que nous donnent les auteurs britanniques. J'avoue que je ne suis pas allé regarder dans les listes de passagers à quel point elles étaient fiables. Alors, oui, là, il y a une circulation à l'intérieur de l'Empire. On pourrait d'ailleurs citer d'autres exemples. Il y a une circulation intense et constante entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande en fonction de la conjoncture économique dans les deux pays, qui est très ancienne. Et ce que je pourrais en dire, c'est qu'on peut distinguer deux types de migrations. Il y a des migrations qui sont des migrations économiques volontaires, c'est-à-dire qui se passent en dehors du contrôle des autorités et qui répondent souvent à des logiques économiques. Et puis, il y a la volonté parfois des autorités britanniques d'importer des spécialistes sur tel ou tel point. Alors, on a des exemples, effectivement. On a des Chinois qui sont policiers. Il y a une petit mouvement migratoire qui amène des Chinois pour s'occuper de police, je ne sais plus dans quelle colonie, je crois que c'est au Kenya, enfin dans une colonie d'Afrique orientale, où là on a une forme d'importation d'une main-d'œuvre qu'on spécialise dans une tâche. Et la question politique que ça pose très vite, c'est celle du rapport entre l'autorité de Londres et l'autorité des colonies. Et ça, on va la voir de façon très très claire en Australie, où on a des autorités impériales qui encourage une certaine forme de libéralisme migratoire, en particulier pour les travailleurs chinois, et des autorités qui, peu à peu, se sont vues dévolues des pouvoirs croissants, qui refusent absolument cette intervention de l'Empire dans les flux migratoires. Et vous avez là un conflit qui, en Australie, donne lieu à... qui est le prélude au vote de la loi de 1901, qui est, alors c'est une loi célèbre, qui était Keep Australia White. Donc son nom même dit qu'il s'agissait pour les Australiens de garder l'Australie comme un paradis pour l'homme blanc, et qui était en partie une réponse aux tentatives de la couronne britannique pour autoriser, favoriser le peuplement et la mise en valeur de certaines zones avec des populations qui venaient plutôt d'Asie. C'est de l'opportunité économique, il me semble. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont... Alors ces migrations-là sont des migrations de gens qui ont souvent des compétences, qui ont souvent un petit peu de capital, et j'ai envie de dire qu'ils ne sont pas forcément très différents des colons britanniques qui vont aller mettre en valeur leur capital ou leurs compétences dans tel ou tel recoin de l'Empire. Et ça s'appuie très vite, alors dans le cas des Indiens, ça s'appuie très vite sur des réseaux familiaux ou des réseaux locaux, au sein duquel circule l'information, circulent les ressources qui favorisent le maintien et la reproduction des migrations.